ce matin, quand je suis arrivée, alors combien de temps j'ai? Parce que faut pas que je me perde. 20 minutes? Une demi-heure. Il est 10h moins 5, 10h25. Nous vous y allons. Ce matin, quand je suis arrivée, je me suis dit, waouh, il y a une joie dans la maison du Seigneur. Il y a une joie, et en même temps, je sentais qu'il y avait comme des trucs qui étaient là, qui disaient, non, mais nous, on est là depuis longtemps. Vous savez, c'est des fois des atmosphères qui restent des générations passées. On défendre le sang, on ne sait pas. Mais enfin, voilà, donc avec la louange, j'ai senti que on allait prendre le terrain du Seigneur, c'est-à-dire on allait surtout dire que c'était le nôtre, parce qu'on ne va pas prendre le terrain, le Seigneur nous l'a déjà donné, mais c'est le nôtre. Puis je me suis dit, mais c'est vrai, on est dans sa maison. C'est quand même extraordinaire, on est dans sa maison. Cet endroit a été consacré pour que le Seigneur puisse être élevé, glorifié, aimé, adoré, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il aime. Et puis après, je vous ai vu en rang comme ça, et j'ai dit, Seigneur, c'est déjà quoi le slogan du scout? Puis j'ai eu un mot qui est venu, toujours prêt. C'est juste, il y a quelque chose? C'est juste...
Le slogan de la branche éclaireuse.
La branche éclaireuse. Toujours prêt. Waouh, sinon on pouvait l'être aussi. Hein. Il faut aller venir, viens, il faudrait faire ça. Cinq minutes, je suis en train d'émerger, je suis en train de sortir de ma sieste. Toujours prêt. Et en vous voyant, j'avais ce mot-là. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait dire, ben, on prend le terrain. On est sur son terrain. Et quand on est sur son terrain, vous portez les habits qui vous disent clairement, nous, on est les flambeaux. Flambeaux de l'Évangile. La bonne nouvelle. Et je me rappelle qu'ils ont dit, écoute, Paul, regarde les menaces qu'ils nous donnent, donne-nous un esprit qui nous donne de pouvoir amener l'Évangile avec un accompagnement de prodiges, de signes. Et puis, le Seigneur est venu, l'atmosphère a été changée, ils sont allés, indépendamment des persécutions, bam, parler du Seigneur, des signes, des prodiges. Mais j'aimerais vraiment, j'ai l'impression que le Seigneur dit, regarde ce qui se passe. Et à la fin du temps de louange, j'ai eu ce sentiment que le Seigneur prenait plaisir, que toutes les voix contraires s'étaient tues tranquillement dans cet endroit. Vous savez, des fois, nos mots ou les mots des générations passées sont encore là. Ils ont dit des choses bien établies, bien scellées. Et la louange, c'est comme un vent. Et le vent du Seigneur et la louange et l'adoration, de quelque forme qu'elle se passe, que ce soit par la déco, que ce soit par la contemplation, que ce soit par l'action, que ce soit par la louange et l'adoration, que ce soit par la parole, elle est en train d'installer, le Seigneur installe son terrain, puis il signe, c'est moi, c'est encore moi. Alors voilà, donc je vais juste dire en fait qu'il y a des témoins qui nous regardent. Il y a des témoins qui nous regardent. Nous sommes dans la saison que le Seigneur prépare pour nous tous, et il y a des témoins là-haut qui nous regardent. Il y en a même deux qui sont descendus fortifier Jésus. Vous vous souvenez de qui c'était? Quand il était dans un moment difficile. C'était Moïse et Élie. Oui, il y a des témoins. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez en hébreu, 7, où ils disent qu'il y a eu énormément de gens qui ont donné leur vie, qui l'ont consacrée, qui ont dit qu'ils se sont déterminés pour le Seigneur et que le Seigneur a déposé dans leur cœur un amour et une détermination d'aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur avait, du projet du Seigneur en eux. Et ils sont arrivés sans avoir vu la promesse parce que Dieu ne voulait pas qu'ils y arrivent sans nous. Et nous voilà. Donc, je vais vous lire d'abord ce psaume parce que je trouve que c'est absolument génial de déclarer la majesté, la grandeur, la force de Dieu. Et il dit dans le psaume 147, « Notre Dieu, notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence est sans limite. L'Éternel soutient les malheureux, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec reconnaissance, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre le ciel de nuages, il prépare la pluie pour la terre. Ah, c'est pas mal en tant que scout, hein, la nature, vous connaissez un peu. Hein. Il fait pousser l'herbe sur les montagnes, il donne la nourriture au bétail et aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas la vigueur du cheval qu'il apprécie, ni les mollets de l'homme qu'il prend plaisir. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, ceux qui s'attendent à sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel, Sion, loue ton Dieu, car il renforce les verrous de tes portes. C'est-à-dire que... Il y a une protection que Dieu met autour de ce qu'il aime et il renforce. Il bénit tes fils au milieu de toi, il donne la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur blé, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité. Il fait tomber la neige pareille à de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace sous forme de grêlons. Qui peut résister devant ce froid qu'il provoque ? Il envoie sa parole et il les fait fondre. Il fait souffler son vent et l'eau coule. Il révèle sa parole à Jacob et ses prescriptions et ses jugements à Israël. Waouh, c'est notre Dieu. Et c'est vrai que je ne sais pas, quand on passe nos temps personnels, qu'on s'arrête vraiment avec Dieu, Dieu seul. On quitte tout le reste. Puis à quelque part, on se dit, mais non, mais là, je vais prendre mon temps juste avec Dieu. Puis on commence à méditer. Comment il est intervenu dans notre vie, dans une situation où on pensait qu'il n'allait jamais le faire, que ce n'était pas possible. Ou bien, on regarde les étoiles, on se couche par terre, puis on regarde les étoiles avec les fistons. Et puis, on s'émerveille de la nature de Dieu. Ou bien dans les couples, ou bien dans les familles, ou bien avec les amis, ou n'importe comment. Mais à un moment donné, on s'arrête et on dit, waouh, le plaisir dans le travail. Parce que moi, des fois, je rouspétais un peu qu'il y avait pas mal d'heures quand même à faire en boulangerie. Puis je suis tombée, parce que le Seigneur est toujours plein de compassion. Il m'a dit, c'est Dieu qui donne le plaisir au travail. Dans Proverbe. Donc, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'on est dans une saison importante. Avec tout ce que le Seigneur a déposé en nous, en chacun de nous, de toutes les générations, on est dans une saison extrêmement importante. Toutes les saisons étaient importantes. Mais c'est comme si le Seigneur, il dit un temps, mais arrêtez-vous. Arrêtons-nous. Même les mouches, elles ne volent pas. Arrêtons-nous. Et reconnaissons qui est Dieu, que Dieu est vraiment là. Que Dieu est vraiment là. Parce qu'il y a comme les prémices d'une nouvelle saison que le Seigneur prépare. Dieu est maître des saisons, Dieu est maître de ce qu'il fait dans l'Église. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, on voit qu'il y a un fil rouge. Il y a un fil rouge, il y a un fil rouge. Il y a vraiment une route. Et la fin, elle sera un petit peu difficile parce qu'il faut vraiment que l'iniquité, elle explose en pleine lumière pour qu'elle soit exposée. Et ça, ce n'est pas des temps faciles pour nous. Mais c'est aussi dans ces moments-là qu'on va briller plus que jamais. Et le Seigneur, son cœur, il dit, venez à moi, venez tout près de moi, tout près de moi, tout près de moi, tout près de mon cœur. Il y avait une histoire où il y avait un vieux guerrier qui avait une expérience extraordinaire dans le monde de Dieu, de son expérience avec le Seigneur. Alors il raconte aux jeunes qui se pressent vers lui, il raconte, puis ils disent, mais comment, raconte-nous, comment ça s'est passé? Puis il raconte les exploits de Dieu, il raconte ce qu'ils ont traversé, comment l'ennemi a été vaincu, comment des situations ont été relevées, redressées. Puis il dit, c'est magnifique, dis-nous comment t'as fait. Alors il dit, voilà, on s'est mis ensemble, on a prié, le Seigneur nous a dit, on est allé, et puis on a combattu. Et le Seigneur nous a donné la victoire. Waouh, waouh, waouh. Alors, boum, les jeunes se mettent ensemble. Bang, bing, bing, et ils partent au combat. Mais alors, l'ennemi dit, tiens, il y a quelqu'un qui arrive ici. Alors, au début, ça semble être génial. Ça monte. Et ils semblent gagner la guerre. Ils semblent gagner la guerre. Contre un ennemi qui ne veut pas lâcher sa proie. Ils semblent la gagner. Puis, plus l'intensité du combat augmente, plus c'est difficile. Puis à la fin, dépité, il y en a un qui a perdu son épée, l'autre qui a ses habits en lambeaux, les autres qui ont le cœur brisé. Ils reviennent vers le vieillard et lui disent, mais on a tout fait, on a tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu nous as enseigné au travers de ton expérience, on a tout fait. Pourquoi on en arrive là? Et le vieillard, il les prend tous vers lui. Il dit, venez, venez, mais tout près de moi. Elle s'approche, tout brisé. Vraiment dur. Puis il leur dit, la sève de la victoire, c'était tout près du cœur de Jésus. La sève du fruit porté dans tous les combats et dans tout le chemin que vous portez, c'est d'être tout près du cœur de Jésus. Que son cœur batte dans le vôtre, que le vôtre batte autant que le vôtre bat dans le sien. Et quand on n'est plus qu'un, alors il peut se passer des choses. Et le Seigneur a déposé en chacun de nous des choses tellement différentes parce qu'il est tellement infini qu'en chacun de nous, il y a une part de Dieu. Je regarde tout le monde et je dis, ah ouais, là, il y a quelqu'un qui est un contemplateur, là, il y a quelqu'un qui est en action, il y a quelqu'un qui est un adorateur, il y a quelqu'un qui se plaît à cultiver son jardin, et là, il y a tout qui jaillit. Il y a quelqu'un qui sait l'exprimer par la beauté. C'est tellement magnifique tout ce que le Seigneur met. Mais s'il n'y a pas d'amour, vous vous souvenez d'un Corinthiens 13, on n'est rien. Et moi, je me rappelle que quand le Seigneur m'a donné d'être dans la maison des bulles, la première mission, bien que l'intercession ait toujours été dans mon cœur, il y a bien des années en arrière, à l'âge de 30 ans, on était avec Romy, on était avec Flo et Rija, et puis avec aussi d'autres amis qui ont participé avec nous dans l'intercession. Mais il m'a mis dans la maison des bulles pour être aux côtés de personnes qui ont été victimes de survivants d'abus. Et puis, au travers de ça, on a vu toutes les facettes. Donc, il y a le sauveur qui veut sauver l'abusé, mais l'abusé, lui, le sauveur, mais il va être aussi le bouc émissaire, comme Jésus, finalement. Il est mort à la croix et puis il a sauvé le monde. Donc, on a vu un petit peu toutes les dysfonctions qui sont liées à l'abus profond, et dans les interactions. Mais on a aussi vu les puissances des ténèbres, comment elles agissaient par les portes ouvertes. Mais on a vu la compassion et l'autorité du Seigneur, et sa sagesse, qui a amené des miracles dans la maison. Et vraiment, nous, on n'était rien, hein. On était juste des petites miettes comme ça, et on a beaucoup appris du Seigneur. Mais on a aussi compris que ce qu'une personne peut vivre, une nation peut le vivre. Et si, collectivement, il y a des nations qui ont été abusées, elles vont réagir, ou elles vont avoir une culture de l'abus face au souvenir générationnel des gens qui représentent les colonisateurs. Et là, il y a besoin, le Rwanda, par exemple, c'est une des tragédies les plus fortes qui est où il y a eu carrément un carnage au milieu les Hutu et les Tutsi. Et la croix était le seul moyen de les ramener à la réconciliation. Donc, on a vu que c'était pas seulement une personne, mais ça peut être une nation, l'histoire d'une nation. Ça peut être entre les nations. Et on dit, dans tel pays, ils sont comme ça. Mais je vous assure que dans notre culture suisse, on retrouve les mêmes réactions qu'on trouve dans un autre pays au travers de personnes qui ont vécu des abus, par exemple. Alors voilà, on a cheminé pendant 10 ans. Et puis, on a eu des orateurs qui sont venus nous enseigner sur ce sujet pointu, parce qu'il est extrêmement complexe, puis il est pointu, puis il faut quand même être bien ouvert au Saint-Esprit, mais il faut aussi connaître... Enfin, voilà, on a besoin d'être enseigné. Et un jour, je me rappelle, j'étais tellement enthousiaste, et j'ai dit, « Ah, Seigneur, dis-moi quel orateur t'aimerais qu'il vienne, parce que... » Puis grand silence. Et j'ai dit, « Qu'est-ce qui se passe ?» Et le Seigneur m'a dit, je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Elle est là. Je me suis assise bêtement sur mon canapé, d'exaltée que j'étais. Ça veut dire quoi? Adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, je pense que notre esprit n'a rien à voir avec notre manière de penser. Et puis, quand on adore avec l'Esprit du Seigneur, quand l'Esprit du Seigneur connecte avec notre esprit, eh bien, on a la vérité, l'Esprit Saint, qui nous conduit dans toute la vérité, nous permet d'adorer le Seigneur tel qu'il est réellement. Et ça a été un temps de transition. Gentiment, cette saison où on accompagnait des personnes qui étaient survivantes d'abus, et en même temps, moi, je guérissais du mien, hein, d'abus aussi que j'ai vécu, il y a eu un temps de rien, ce qu'on appelle un temps de transition. C'est un temps très inconfortable. Les choses anciennes sont passées, les choses nouvelles ne sont pas encore devenues. Et entre deux, il faut lâcher ce qu'on a vécu, il faut faire un vide, pas un vide, mais j'entends, il faut lâcher, redonner. Puis ensuite, la terre doit être préparée pour ce qui vient de nouveau. Et c'est là que le Seigneur m'a parlé des maisons de prière. Et avec Michel, qui fait partie aussi du comité, qui nous a soutenus pendant 15 ans presque, en même plus, hein, à la maison des Bulles, avec Michel et toute l'équipe qui était aux Bulles avec moi, donc André, Bernard et leurs épouses, on a prié pendant ce temps-là pour préparer le chemin. Mais on n'avait rien de tangible, sinon qu'on sentait que la maison des Bulles, l'endroit était soutenu par l'Esprit du Seigneur. On ne peut pas dire comment. Simplement que les gens, quand ils se rappelaient de la maison des Bulles, ils pensaient toujours que c'était un lieu qui était pour le Seigneur. Et puis on recevait des dons comme ça, alors que je n'ai pas fait de pub, il y a eu le Covid, on n'a rien eu. On recevait des dons qui ont permis que la maison continue, que le hangar continue. On a posé des toisons et le Seigneur a répondu aux toisons. Et un jour, j'étais en train de faire une sieste et j'écoutais une oratrice qui était justement dans l'intercession. Et je l'écoutais, je disais, Seigneur Jésus, on n'aura jamais ça dans nos contrées aux Bulles. Des gens comme ça, qui parlent comme ça bien, on n'aura jamais. Et me disait, je rouspétais. Je disais, il n'y a pas possible. Le téléphone sonne et une de mes amies, avec qui je chemine aussi dans le chemin de la maison de prière, elle me dit, tu viendrais du côté du Gaulle-la-Forêt, il y a un séminaire sur la maison de prière avec tel et tel orateur. Qui ? Quoi ? L'orateur où j'étais justement en train de rouspéter, donc. Hein. Il ne viendra jamais aux Bulles. La personne va venir. Enfin, en tout cas, il y a la promesse qu'elle va venir. Mais toujours est-il que c'était la dernière semaine du mois de juillet. Et Mathis, hein, tu connais le travail dans la boulangerie. Hein. C'était la semaine où on avait le plus de travail. Mais le Seigneur, il m'avait eu. Mais vraiment, il m'a eu. Comme ce n'est pas possible d'avoir quelqu'un. Parce que quand j'ai su que c'était cet orateur, j'étais tellement assoiffée d'en apprendre que j'ai dit, je lâche tout, j'y vais. Ça se passera comme ça se passera, j'y vais, tant pis pour cette dernière semaine. Et tout s'est embranché pour que je puisse être remplacée pendant cette semaine-là. Et je suis partie au Gaulle-la-Forêt. Et au Gaulle-la-Forêt, ben, nous a enseigné sur les maisons de prière, donc j'ai appris. Et à un moment donné, ils ont dit, ben, chaque soir, la voix prophétique, V-O-I-X, sera donnée par un pays francophone. Donc il y a la France, il y avait la Belgique et il y a la Suisse. Moi, j'étais tranquillement installée dans le seul fauteuil qu'il y avait, c'était mes vacances quand même, hein, à l'extérieur. Et puis j'ai dit, bouf, là-bas, les Suisses vont se lever. Le Seigneur m'a dit, non, ça sera toi. J'ai dit, oui, alors Suisse de cœur, je suis reconnaissante encore plus. Mais la voix suisse, le Seigneur m'a dit, si, si. Alors voilà, je résume l'histoire, puisqu'on est pas bientôt 10h25. J'ai dit, ok, j'ai réuni tous mes amis suisses. Et puis après, il y a eu le complexe français. Ah, ces Français prennent toute la place, puis rien. Puis après, les Belges ont dit, on connaît ça, mais bon, voilà, il faut dépasser ça, faut arrêter de faire le syndrome du petit frère coincé. Puis bon, on a réussi enfin à se mettre ensemble et d'accord. Et je ne vous dis pas la suite, c'est que dans l'équipe, il s'est avéré qu'il y avait dans les Belges des gens à qui leurs grands-parents, leurs grands-mamans ont habité dans le Jura bernois. Et puis, ils n'étaient pas contents, hein, parce qu'ils auraient bien voulu vivre en Suisse, hein, et puis ils devaient être en Belgique, c'était vraiment... J'ai dit, bon, écoutez, si vous avez générationnellement, il y a quelque chose de Suisse, vous venez avec moi. Évidemment, le seul chant que j'assure bien, c'est « Dieu est si... » Vous connaissez la suite, hein. Un petit yodel. On est parti dans le yodel, il y avait la pièce de Saint-Franc, il y avait vraiment bah, toute l'équipe s'y est mise, et puis j'ai vu toute la salle danser. toute la salle a commencé à danser. Ah, j'ai dit, Seigneur Jésus, c'est magnifique. Mais il y avait une joie. Vraiment, vous savez, là, si vous voulez percer le puits, hein, si vous allez prier dans les endroits yodelés, c'est pas mal. Parce que la terre commence à danser quand on yodel. Je ne sais pas comment dire, mais la terre commence à danser quand il y a le yodel. Et puis le yodel, on disait, bon, s'il y a un parler en langue qui disait entre les montagnes, mais en fait, le yodel est venu parce que il y avait un... Quand ils allaient amener les génisses à l'alpage, eh ben pour les appeler, pour pouvoir les traire, ils faisaient... Et hop, les vaches arrivaient. Ça laissait traire. Mais un jour, ça fait... Plus de voix. Puis les vaches, bon... Et il y en avait beaucoup, donc c'était difficile de les rassembler. Puis tout à coup, il y a eu un bout de bois comme ça, ouvert, puis il y a le vent qui a fait dedans. C'est dit, ça y est, je le module, je le travaille, et c'est devenu le corps des Alpes. Mais le premier mouvement rassembleur pour les vaches, c'était yodel. Et ensuite, c'est devenu, à quelque part, c'est devenu le, si vous voulez, c'est devenu le chant du pays qui est relié à la terre. Et c'est devenu aussi une adoration. Et là où le Seigneur m'envoie, et puis avec ce chant qu'il m'avait donné lors d'un temps de relation d'aide, pour ramener une réconciliation dans les racines suisses allemandes de ceux qui n'étaient pas réconciliés avec ça, eh bien, je vois des gens qui restaient comme ça, se lever et danser. Et vraiment, j'ai compris que c'était une clé. Voilà, si jamais, hein, c'est... Alors voilà, et quand donc on était en train de vivre ce moment-là, et ça a ouvert les cœurs de toutes les nations. Et c'est là que Jean, qui va vous parler des maisons de prière après, a dit, c'est là que j'ai dit, Jean, mais il faut que tu viennes nous enseigner, il faut que tu viennes établir la maison de prière, parce que le Seigneur nous y appelle. Il faut quelqu'un qui soit un enseignant, et aussi qui établisse, un envoyé qui établisse. Les maisons de prière, hein, avec le cœur de Père de Dieu. Et ils étaient enchantés, donc ils sont venus avec toute la famille. Et puis maintenant, ben, ils viennent régulièrement et vraiment maintenant, ils nous établissent petit à petit au travers au travers des séminaires et des enseignements qu'ils nous donnent. Et on travaille aussi en connivence avec Cormoret, hein. Et puis, donc, Romana, qui a été fidèle dans la... dans l'intercession depuis presque 20 ans, 30 ans, puisque je suis revenue, j'avais 30 ans de l'école biblique, eh bien, ben, on fait partie. Donc, elle était même une des premières. Et puis, voilà, donc on est arrivé à cette étape. Et comme je suis en train de la découvrir, j'ai dit, Jean, écoute, tu ne voudrais pas faire un petit... un petit truc à visionner pour que les gens puissent comprendre ce que c'est exactement une maison de prière, parce que c'est un mouvement que le Seigneur remet en marche, mais qui existe depuis très longtemps. Mais il est en train de le remettre, et il le remet dans toutes les nations, il remet des maisons de prière dans toutes les nations, et spécialement sur les chemins où il y a les plus grands chocs, par exemple au Moyen-Orient, là où il y a des enjeux extrêmement forts, ben le Seigneur lève des maisons de prière. C'est encore plus gloire au Seigneur pour eux, parce que c'est quand même des endroits chauds. Nous, on est au bulle, hein, ça va bien, hein, mais c'est des endroits chauds. Donc, je vous laisse regarder la vidéo, puis je conclue.
Bonjour les amis de la Chaux-de-Fonds. Je vous fais cette petite vidéo à la demande de Leïla, notre bonne amie, qui voulait que je vous parle très brièvement du point de vue global des maisons de prière. Les maisons de prière, c'est un mouvement qui touche la terre entière et qui est tellement ancien qu'on a l'impression qu'il est nouveau, parce que ce sont des réalités que nous avions peut-être un peu oubliées et que le Seigneur est en train de susciter pour l'instant sur la terre entière. Le nom maison de prière provient d'un magnifique verset en Ésaïe 56 au verset 7, où le Seigneur dit « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. » leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » On n'a pas le temps d'aller en détail sur ce verset, mais on va retenir que le Seigneur dit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Bien sûr, il parlait du temple à Jérusalem à l'époque, mais par extension, il parle aussi de nous qui sommes sa maison, son église qui est sa maison, Israël qui est sa maison, parce que la maison du Seigneur c'est aussi sa famille et nous sommes sa famille. Et il a dit « Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. » Le mouvement des maisons de prière actuelles est un mouvement où l'adoration, l'intercession et la contemplation sont au cœur de la démarche. C'est un mouvement où de plus en plus de gens se sentent appelés pour aller servir la présence du Seigneur. C'est un concept qui paraît nouveau, mais qui ne l'est pas du tout. Les Lévites faisaient déjà la même chose, les prêtres dans le temple faisaient déjà la même chose, et de tout temps dans l'histoire de l'Église, il y a eu des personnes qui ont eu cet appel à servir la présence de Dieu. Servir la présence de Dieu, ça veut dire le servir lui pour qui il est, lui apporter l'adoration qui lui est due, lui apporter les prières qui sont sur son cœur. Dans les maisons de prière, ce qui est magnifique, c'est qu'on apprend à prier ses prières. On ne vient pas spécialement avec notre liste de prières préétablies, on vient pour chercher son cœur dans l'adoration. Et quand le Seigneur se plaît à partager son cœur, on lui répète les prières qu'il inspire sur nos cœurs, tout simplement. Et les maisons de prière, il y en a, comme je vous le disais, sur la terre entière. Il y en a en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en extrême, Orient, comme au Proche-Orient, comme au Moyen-Orient. Il y en a en Europe, il y en a en Afrique, il y en a en Océanie, il y en a sur tous les continents. Et ces maisons de prière, sans s'être forcément concertées les unes avec les autres, ont toutes quelque chose en commun. C'est ce désir d'abord de servir la présence de Dieu en premier lieu, et ensuite ce désir de voir le royaume de Dieu s'incarner sur cette terre. Et leur pierre qu'ils apportent à l'édifice de la construction du royaume de Dieu, de l'appel du royaume de Dieu, se fait à travers la prière fervente. D'autres points en commun dans toutes ces maisons de prière. La plupart aspirent à un modèle en 24-7, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qu'on appelait dans les temps anciens la prière perpétuelle. Parlant de prière perpétuelle, vous avez un magnifique héritage en Suisse, à Agone, c'est Saint-Maurice, où la prière perpétuelle existe en ce lieu depuis bien plus d'un millénaire. Donc voilà, il y a de l'héritage à aller ressaisir pour vous, nos amis suisses. Donc les maisons de prière partagent également des caractéristiques en commun. Outre la prière 24-7 dont nous avons parlé, ils partagent aussi la volonté de proclamer les promesses de la parole de Dieu sur les nations dans lesquelles ils sont implantés, mais aussi sur les autres nations, et spécifiquement sur Israël. D'ailleurs, les maisons de prière ont, pour l'extrême majorité d'entre elles, une réelle connexion de cœur avec Israël et avec Jérusalem. Leur désir est vraiment de s'aligner sur Jérusalem, parce que nous savons que c'est là que notre roi, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, le Messie, reviendra. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers et nous voulons faire partie de cette cohorte des nations qui va appeler son retour et qui va venir l'accueillir sur les murailles de Jérusalem, que ce soit physiquement ou que ce soit spirituellement dans la prière. Donc c'est encore une caractéristique frappante des maisons de prière, c'est cette connexion à Israël et cette connexion à Jérusalem. Une dernière chose, les maisons de prière aiment à être en réseau les unes avec les autres. Elles reprennent cette vieille tradition de l'Église qui était déjà dans les voyages apostoliques de Paul, de Pierre, de Jean, d'aller se visiter les uns les autres et d'aller se soutenir les uns les autres dans notre appel et dans notre mission de prière. Donc, les maisons de prière fonctionnent en réseau les uns avec les autres. Les maisons de prière, outre tout ce que l'on vient de dire, sont au service du corps de Christ. Elles ne sont nullement un mouvement parallèle qui viendrait faire concurrence à l'église classique établie. Pas du tout. Les maisons de prière font partie du corps de Christ, font partie de l'église. Elles répondent juste à un mandat spécifique qui est ce mandat de la prière et de l'adoration comme point focal. Mais en dehors de cela, ce sont des croyants et des chrétiens et des messianiques comme vous et moi qui servons dans les communautés locales, et leur prière est là également pour bénir le corps de Christ local et pour le soutenir. Dans les réveils aux États-Unis au début du XXe siècle, les grands hommes de réveil avaient toujours avec eux une équipe d'intercession. Et Smith Wigglesworth appelait ces équipes d'intercession la chaufferie. C'est-à-dire que pour lui, l'équipe d'intercession était vraiment le lieu qui amenait la chaleur de la présence de Dieu dans ces réunions de réveil et qui permettait que ces réunions de réveil portent le fruit qu'elles portent. Et nous croyons que le mouvement des maisons de prière sert de chaufferie pour le corps du Christ. Si nous voulons voir venir un mouvement du Seigneur, si nous voulons accueillir un réveil de la part de notre Dieu, si nous voulons voir le plus d'âmes possible arriver dans le royaume de Dieu avant le retour de notre Seigneur, les maisons de prière ont un rôle éminent à jouer par leur adoration, par leur intercession et par leur proclamation prophétique. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné l'envie d'en entendre davantage de la part de Leïla, qui va venir vous témoigner ou qui vous a déjà témoigné de ce qu'elle vivait dans son appel aux maisons de prière. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Au revoir.
Aïe, 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 j'ai passé 2 minutes. Voilà, comme ça, ça vous met un petit peu au courant de ce qui se passe, comment le Seigneur agit au travers de nos, dans ses saisons, dans sa volonté. C'est très agréable de sentir qu'on est vraiment dans la volonté de Dieu, même si on est imparfait. Mais au moins, on sait qu'on est, on est dans la bonne saison. C'est ça qui compte. Et je voulais juste terminer par une prière qui a été faite par... Est-ce que vous croyez que le Seigneur a déjà levé des hommes de Dieu, mais vraiment que c'est lui qui a levé, pas des hommes de Dieu qui se sont levés au nom de Dieu, que le Seigneur lui-même a levé dans le pays de la Suisse. Est-ce que vous connaissez un nom où on sait que c'est vraiment Dieu qui l'a levé? Toi, tu sais parce que... Parce que vous savez que... Est-ce que déjà vous croyez qu'il y en a eu un en Suisse?
Oui.
Bien entendu.
Ah. Il y a quelqu'un qui l'a dit par là.
Qui? Par là?
C'est Michel qui l'a dit.
Vous avez le droit de vous tromper. Oui. Qui c'est qui a dit Nicolas de Flux?
Bravo.
On applaudit. Nicolas de Flux. Nicolas de Flux. J'ai dit à Florence, j'ai dit, écoute, pour nous encourager dans les fibres, moi c'est adoptif, mais pour encourager les racines générationnelles suisses profondes, c'est pas mal de se rappeler que Dieu a levé un homme, mais réellement, c'est lui qui l'a fait, qui a dû quitter sa famille de père de 10 enfants, le plus grand avait 20 ans, pour devenir un père d'une nation, mais aussi quelqu'un qui a été mis comme une sentinelle importante au milieu de l'Europe, dans des circonstances impressionnantes. Et voilà sa prière, je terminerai par ça, parce que le 6 novembre, je vais développer le personnage. Il y a un curé québécois qui raconte très très bien la vie de Nicolas de Flux avec son accent québécois, mais c'est vraiment celui qui raconte le mieux, je trouve. En tout cas, on a envie, vraiment. Donc il dit, voilà. Il dit, Dieu sait faire que parfois l'oraison, donc la prière, ait un tel goût qu'on y aille comme à la danse. Et d'autres fois, qu'elle soit telle qu'on y aille comme au combat. Et il dit, la paix est toujours en Dieu, car Dieu est la paix. Et il prie, mon Seigneur et mon Dieu, enlève de moi tout ce qui m'empêche de venir à toi. S'il te plaît, Seigneur, enlève de moi tout ce qui m'empêche de venir à toi. Mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi tout ce qui me pousse vers toi. Tout ce qui me pousse vers toi. Mon Seigneur et mon Dieu, prends-moi et arrache-moi à moi-même. Lâcher prise sur soi-même, C'est le plus gros des lâcher-prise qu'on puisse avoir. On a plein de lâcher-prise, on se sent toujours plus libre une fois qu'on a passé l'épreuve. Mais là, mon Seigneur, mon Dieu, prends-moi et arrache-moi à moi-même et donne-moi tout entier à toi. Voilà la prière de notre... comment est-ce qu'on appelle ceux qui sont avant nous ? Prédécesseur, qui nous a laissé, qui a été vraiment un homme que le Seigneur a levé sur la terre de Suisse dans des circonstances terribles. Et en fait, si Dieu a levé cet homme-là, la compassion que Dieu a eue pour la Suisse, ça fait que ben, la Suisse est restée Suisse, sinon c'était fini. Voilà, donc au 6 novembre, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, et puis je vais vraiment prier. Merci Seigneur, vraiment. Pour ce temps, merci pour nos jeunes flambeaux de l'Évangile qui sont là. Merci de les revêtir de ton feu. Ils portent la couleur du feu autour d'eux, cette couleur orange, mais qu'elle devienne mais vraiment un feu de ta part. Merci aussi, Seigneur, de nous encourager, merci de nous revêtir, merci de nous donner soif, de nous pousser vers toi. Merci aussi de nous enlever tout ce qui nous empêche de venir à toi, Seigneur. Merci de nous faire ressentir par ton esprit, dans notre esprit, ce qu'il y a dans ton cœur, pour que nous puissions faire qu'une seule voix avec toi. Et Seigneur, merci de ce que tu affectionnes, l'Église de Réveil, qui porte ce nom prometteur, qui porte ce nom qui a une origine aussi, l'Église de Réveil. Et Seigneur, ton esprit va réveiller notre esprit d'une manière qu'on n'aurait jamais imaginée, nous, tout à nouveau. Et merci parce qu'elle va être vraiment ce feu, elle va être vraiment ce fleuve qui va couler, elle va vraiment être... Et je sais que, Seigneur, ton eau va monter et elle va passer par-dessus tous les murs, elle va passer, elle va nous prendre avec. Et merci pour ce temps, merci pour ta grâce et ta compassion. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci à vous.